Chapitre 22. C'est avec une profonde tristesse que les villageois apprirent le sort réservé à Bourbeau-Marcelet et à son second, quand l'embarcation de sauvetage revint en fin de journée. Avec une profonde désolation, Émile regagna la rive, le cœur viré à l'envers. Sur la plage de Galais, en cette fin d'après-midi d'automne, les familles des deux pêcheurs ainsi que plusieurs villageois attendaient remplis d'espoir. Quand le jeune homme s'approcha de Lucienne, la tête basse, elle comprit aussitôt. « Mon Thibault qui est parti. » Émile la fixa avec tristesse. Il s'attendait à des cris, à des hurlements. Mais même si les filles de Bourbeau laissèrent couler leurs larmes, Lucienne, elle, releva fièrement son torse. Elle pointa la mer et sous les cris des oiseaux marins qui accompagnaient le bateau de la Robin, elle lança « C'est comme ça que votre père voulait mourir. » dans la mer qu'il a vu grandir. S'avançant solennellement à la limite de l'eau glacée, la femme ferma ses yeux et leva sa tête vers le ciel. Malgré sa courte taille, Lucienne sembla s'élever lorsqu'elle étira les bras vers le ciel et se mit à chuchoter une prière. « Écoute notre prière pour tous ceux qui ne sont plus. Accueille dans ta lumière tous nos marins disparus. Viens en aide, ô notre Père, à la veuve, à l'orphelin, et protège sur la terre les familles des marins. » Tous ceux et celles qui s'étaient agglutinés près des familles peinèrent à retenir leurs pleurs. Le dernier malheur en lien avec la mer était la noyade du petit Éloi. Certains songeaient que la douleur de perdre un mari d'une telle manière ne pourrait jamais être aussi intense que pour un enfant. Il n'en demeurait pas moins qu'à Lens à la joie, la mort de Bourbeau, Thibouc, Marcelet, représentait la fin d'une époque. À 71 ans, l'homme était le pêcheur le plus âgé du village, et il avait souvent martelé qu'il continuerait à aller en mer jusqu'à temps que son corps le lâche. En remontant lentement vers la montagne où les arbres avaient revêtu leur tenue d'automne, Lucienne marchait dignement, soutenue par ses enfants. Les murmures de résignation avaient remplacé la colère et l'inquiétude. « C'est normal de perdre des hommes dans la mer. » chuchota Joseph Tremblay, en lançant des regards entendus autour de lui. « Ce ne sera pas les derniers, » rajouta un vieux pêcheur. « Tout le monde le sait que c'est l'océan le plus fort. Ça sert à rien de se battre contre lui. » Madeleine, qui suivait le groupe avec Arthur serré contre elle, cessa de marcher et jeta un regard sur la mer, en contrebas. Elle se surprit à ressentir une grande tristesse pour Lucienne, en même temps qu'une sérénité nouvelle face à l'accident qui avait coûté la vie à Éloi. « Je crois que je suis en train de me pardonner », songea la jeune mère de famille en prenant le bras de son oncle Jean-Julien, qui l'attendait quelques pas devant. « Allons à la maison, mon Arthur », chuchota-t-elle en embrassant le front dénudé de son fils. Assise derrière son bureau de travail à l'hôpital Saint-Joseph, Clémence retenait ses larmes depuis le matin. Sa décision était prise. Mais il n'en demeurait pas moins que son cœur était brisé. « Je peux pas croire que j'abandonne mes rêves », songea-t-elle en rangeant des documents dans les tiroirs de son bureau. « Si seulement Sylvestre avait eu confiance en moi, en nous. » Incapable de demeurer dans le grand village où elle avait vécu de si beaux moments avec Sylvestre, la secrétaire avait annoncé à la sœur supérieure qu'elle désirait laisser son emploi à l'hôpital Saint-Joseph dès qu'une remplaçante aurait été trouvée. « Je suis surprise, mademoiselle Gérard. Je ne croyais pas que vous étiez fiancée. »« Hein? Je le suis pas non plus. » La femme austère avait froncé les sourcils sous sa cornette blanche. « Alors pour quelle raison nous quittez-vous, si ce n'est pas pour vous marier? » Clémence avait retenu des mots brusques du genre « ça, c'est pas de vos affaires » et avait plutôt répondu « je songe à retourner dans mon village natal. » Ah? « Rappelez-moi le nom de cet endroit ?» lança la joie. « Vous ne trouverez certainement pas de travail dans un petit endroit comme ça. Il me semble que vous êtes bien traitée ici à l'hôpital. Vous êtes certaine de votre choix, mademoiselle ?» La jeune femme avait hoché la tête en sentant ses yeux s'humidifier. Quitter Rimouski pour retourner à Lens à la joie était un aveu d'échec évident. Lorsqu'elle était partie, 5 ans plus tôt, elle avait dit à tout le monde qu'elle ne reviendrait jamais vivre au village. En faisant ses adieux à son amie Angèle, la secrétaire avait tenté d'expliquer sa désolation. « C'est pas seulement la perte de Sylvestre qui m'attriste ainsi. Il y a aussi le fait que je retourne chez nous la queue entre les jambes, avait murmuré Clémence avant de promettre à l'autre femme de lui écrire souvent. Puis elle avait signifié au docteur Marien qu'elle quitterait le logement au début de novembre, et son propriétaire avait simplement approuvé en grommelant « Je suis content de voir que vous avez retrouvé vos esprits, mademoiselle Clémence. » « Pardon ? J'imagine que votre relation avec cet homme est terminée. C'est une bonne chose. » Lasse de s'expliquer, de justifier l'amour qu'elle éprouvait pour cet homme, Clémence n'avait pas répliqué. « Ah, Sylvestre, pourquoi m'as-tu laissé tomber? On aurait pu passer au travers de tout grâce à notre amour. J'aurais tant aimé que tu me fasses confiance. » Les funérailles de Bourbeau-Marcellet se déroulèrent 3 jours après sa disparition. Malgré les allers-retours des pêcheurs du village de Lens-à-la-Joie entre la baie et le banc des Américains, sa veuve s'était rendue à l'évidence. C'était son destin à Montibouc. La mère nous a donné beaucoup depuis notre naissance, mais elle a décidé de reprendre ce qui était le plus important. Lucienne fut très digne lors de la cérémonie en mémoire de son mari disparu. Sous le regard mi-clos de Jacqueline, qui faisait tout pour éviter de regarder en direction de la famille Taillefer, la femme livra un vibrant message rempli de sagesse. « Quand j'ai rencontré Tibouk, on était encore des enfants. Même si la Gaspésie est une terre hostile aux yeux de bien du monde, on n'a jamais pensé quitter notre coin de pays. Bourbeau était un pêcheur, un vrai. Fidèle à son village, il me disait souvent qu'il n'y avait rien de plus beau que la lune orange qu'il accueillait sur la grave quand il se préparait pour ses journées en mer. C'était un vrai poète, mon mari. » La tristesse fit place au sourire lorsque la femme poursuivit son discours. Il savait d'ailleurs quelle lune annonçait la tempête. « Je suis certaine que d'où il est à présent, Thibault qui est en beau joie le vert, excusez-moi, monsieur le curé. » rajouta Lucienne en voyant la mine réprobatrice de Jacqueline. « Mais il doit tellement rager d'avoir manqué son coup cette journée-là. C'était pas un bavard, Thibault, c'est vrai, mais je suis bien contente d'avoir partagé son dernier déjeuner. On n'a pas parlé, parce qu'il avait coutume de dire que les mots étaient bien inutiles au petit matin. Mais au moins, on a mangé ensemble. Puis là, je me dis que mon homme n'aura plus jamais froid. En tout cas, je l'espère. Parce que vous savez à quel point il était toujours gelé, surtout quand il partait en mer. » Après les tristes événements, Madeleine prit soin de Boulanger pour sa voisine, qui avait été tellement présente lors de la mort d'Éloi. La femme enceinte de 8 mois supportait la douleur parfois intolérable dans son dos, en se rappelant qu'il y avait pire. « Laisse-moi prendre soin de toi, ma Lucienne. T'as plein d'affaires à gérer avec tes enfants, et ça me fait plaisir. » Au village, les rumeurs allaient bon train concernant la villageoise endeuillée. Certains croyaient qu'elle irait peut-être vivre chez l'un de ses enfants, plutôt que de rester seule dans sa maison durant Soriole. D'autres, comme Madeleine et Palmyre, espéraient de tout leur cœur que la femme de 62 ans demeure leur voisine. « Je vois pas comment elle pourrait quitter le village qui l'a vu naître », avait marmonné Palmyre, pour qui une telle éventualité était complètement farfelue. Après la mort de Thibault et de son second, les discussions entourant le mariage de Rosario et de la vieille femme avaient été mises sur la glace. Mal à l'aise à l'idée de pavaner leur joie alors que Lucienne vivait une épreuve aussi triste, les aïeuls avaient convenu qu'ils pouvaient certainement attendre quelques semaines de plus avant d'unir leur destinée. « De toute manière, » avait chuchoté Palmyre, sa bouche coquettement cachée derrière sa main tremblante, « j'ai pas vraiment peur que tu trouves une autre prétendante. » Son fiancé avait souri avant de se pencher pour embrasser sa douce à la commissure des lèvres. Les paupières de Palmyre avaient frétillé devant ce geste tendre, et elle avait gardé les doigts rudes de Rosario contre son corps pendant quelques secondes. Les deux avaient échangé un long regard affectueux. Tom s'était remis de son épreuve, et il avait choisi de retourner pêcher en compagnie de son beau-frère à peine remis de sa quasi-noyade. Après tout, avait-il annoncé à Simone craintive, il reste à peine 2 semaines à la saison et on sortira pas de la baie. La femme lui avait fait promettre de rentrer aussitôt que le temps passait à la pluie. Même si les tempêtes d'automne étaient fréquentes en Gaspésie, c'était la première fois que Tom avait craint pour sa vie. Fais-moi pas le même coup que Tibouk. Nous autres, on n'a pas fini d'élever notre famille. » avait grondé Simone en sortant de la maison auprès de son mari, la journée de son retour en mer. Ce dernier avait hoché la tête, tout en envoyant la main aux trois enfants agglutinés derrière l'unique fenêtre du salon. Comme Gustave habitait avec eux de manière presque permanente, il avait promis de l'amener en mer avec lui une autre fois avant le halage des barges. Le gamin était en train de prendre une place importante au sein de la famille Laviolette. Sans remplacer Éloi, il permettait à Tom et à Simone de combler une partie du vide que la noyade de leur garçon avait créé. Dans les semaines qui suivirent la disparition de Bourbeau-Marcellet, alors que la première neige se faisait attendre, les pêcheurs qui allaient sur l'eau ne pouvaient s'empêcher de scruter l'horizon, dans l'espoir de retrouver un morceau de la barge de Tibouk. Même si Lucienne avait dû faire le deuil de son mari sans récupérer son corps, tous auraient aimé qu'elle puisse conserver un bout de ce bateau qui avait été le cercueil de son mari. Clémence ferma sa dernière valise en soupirant, les larmes coulant sur ses joues pâles. La femme laissa ses yeux courir sur les murs tapissés de son petit salon. Elle repartait de Rimouski avec une peine d'amour dans ses bagages et l'impression d'abandonner tous ses rêves. Elle n'avait pas annoncé à sa fratrie son retour à Lens-à-la-Joie. Clémence savait qu'au moment où elle l'en aviserait, son triste revers deviendrait davantage réalité. C'est donc la mort dans l'âme qu'elle enfouit ses boucles sous son béret de laine et prit ses deux valises de cuir brun. La jeune femme avait demandé au docteur la permission de passer un coup de fil, et le taxi commandé ne devrait pas tarder. « Adieu, Rimouski », chuchota Clémence une fois assise à bord de l'autobus qui la ramenait dans son village. « Adieu, mon amour », pleura-t-elle en rageant aussi contre cet homme qui n'avait pas eu foi en eux. Clémence regardait la route, les yeux dans l'eau. Elle repassait dans sa tête sa vie des derniers mois, en cherchant où elle avait erré. « Comment j'aurais pu agir pour qu'il me fasse confiance ?» songeait-elle. « Sylvestre aurait dû m'attendre et avoir le courage de me dire en pleine face qu'il voulait plus être mon amoureux. » Plus l'autobus s'approchait de Percé, plus Clémence sentait sa détermination augmenter. Elle n'avait jamais été le genre de femme à courber l'échine. Moins prompte que Simone, du moins avant la mort d'Éloi, la Benjamine de la famille Gérard avait malgré tout des idées bien arrêtées sur ce qu'elle voulait dans sa vie future. Depuis l'adolescence que Clémence souhaitait quitter le village qu'il avait vu grandir pour découvrir la province de Québec. Quand elle avait décidé de partir pour Rimouski, la jeune femme espérait y faire sa vie. Et puis me voilà de retour à la case départ. Je sais bien pas ce que je pourrais faire au village, mais je vais me donner le temps de réfléchir, en tout cas. « Je vais pas m'y éterniser, c'est certain, sinon Jacqueline va me forcer à trouver un époux. Non. Je vais essayer de faire le point sur ma situation sans me lamenter éternellement. Ensuite, je repartirai ailleurs. Pourquoi pas à Québec ou même à Montréal? Puisque Sylvestre veut pas de moi, je vais pas pleurer son absence jusqu'à ma mort. Je vais me remettre sur pied et trouver un nouveau sens à ma vie. » Clémence essuya ses yeux d'une main ferme lorsque le rocher Percé apparut à l'horizon. C'est l'esprit plus détendu qu'elle descendit de l'autobus pour se diriger à l'auberge, déterminée à renouer les liens avec ses sœurs, à connaître enfin ses nièces et son neveu. Ses valises brunes au bout des bras, elle marcha d'un pas assuré vers l'établissement pour prendre un repas chaud et espérer trouver quelqu'un qui pourrait la conduire à Lens-à-la-Joie. Quelques instants plus tard, bien assise devant une table ronde près d'une grande fenêtre qui lui permettait de voir la mer, Clémence leva son verre de cola et clama « À ma nouvelle vie ». Quand Jean-Julien ouvrit la porte de sa maison et y trouva sa nièce sur le seuil, il fronça les sourcils. La nuit était bien tombée et il éclaira le visage ovale avec la lampe qu'il tenait à bout de bras. « Bien, regardez donc ce que le bon Dieu vient d'apporter !» s'exclama le quinquagénaire vêtu de son pyjama. « Allô, mon oncle ?» murmura Clémence en tentant de sourire. « Rentre, ma fille Angèle. » Une fois débarrassée de son long manteau cintré et de son béret marine, Clémence suivit son oncle dans la cuisine bien rangée. Le photographe qui s'apprêtait à aller dormir pointa sa bouilloire. « Une tasse de thé? Non, non. Je sais qu'il est tard. Je t'ai peut-être même déjà réveillée. » Jean-Julien secoua sa tête poivrée-sel et lissa sa moustache. Il prit la main froide de sa nièce et la dirigea vers le salon adjacent à la cuisine. Les murs lambrissés étaient couverts de clichés de la baie et des villages environnants. Laissant errer son regard sur les paysages en noir et blanc, Clémence soupira doucement. « Bon, eh bien, dis-moi pour combien de temps tu restes avec nous cette fois-ci? » demanda Jean-Julien. Clémence délaissa l'observation des images pour poser ses yeux bleus sur le visage curieux de son oncle. « Cette fois-ci, répéta la jeune femme, je reviens pour un bon moment. Jusqu'à temps que je trouve ce que je veux faire pour le reste de ma vie. » Dans le silence de la cuisine, entrecoupé seulement par le babillage de Béatrice, Simone tentait de faire le point sur les 10 derniers jours. Elle n'avait pas oublié la confession de Rosalie Taillefer, et chaque fois qu'elle croisait la jeune marchande à l'église ou au magasin, cette dernière lui lançait un regard inquisiteur et inquiet. La veille, à la sortie de la messe, Rosalie s'était approchée d'elle et avait soufflé à son oreille. « Simone, as-tu parlé à... » Sans la laisser terminer sa phrase, la femme brune avait brièvement serré la main de Rosalie, en la rassurant du mieux possible. « Non, pas encore. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas trouvé le bon moment, mais je t'ai pas oublié. » Le lendemain matin, Simone ruminait donc dans la maison, tout en roulant sa pâte pour faire des tartes au sucre. Elle surveillait du coin de l'œil sa fille cadette qui imitait tous ses gestes, à genoux sur la chaise de bois. La petite tenait un rouleau miniature fabriqué par son père et prenait très au sérieux sa tâche de confection de tartes. « Ga, maman, Béa fait une grosse tarte. » « Oui, ma fille. » Debout, la tête penchée sur son ouvrage, Simone réfléchissait à la prochaine étape pour faire le point sur la situation avec son frère et Rosalie. Au bout de quelques minutes de silence, elle déposa son rouleau sur le comptoir, plaça ses 6 tartes l'une près de l'autre sur la table et enleva son tablier rempli de farine. « Sais-tu quoi, Béa? Il y a juste une personne qui peut m'aider à prendre une décision. Viens, on va s'habiller. » En quelques secondes, l'enfant descendit de la chaise et courut sur ses petites jambes en direction de sa chambre. Avant même que Simone soit arrivée, Béatrice avait sorti une robe de son tiroir et essayait d'enfiler des collants par-dessus son épaisse couche. Sa mère sourit en secouant sa tête brune. « Non, fille, tu vas mettre ta salopette, il fait froid. » Béatrice fit la moue en tenant sa robe bleue contre sa camisole blanche. L'enfant faisait souvent des caprices au moment de se vêtir pour sortir, et Simone n'avait pas de temps à perdre avec ça ce matin. Elle enleva le vêtement des mains de sa fille et la força à faire entrer ses jambes dodues dans l'ancienne tenue en coton gris de son frère Éloi. Elle attacha les gros boutons sur le dessus des épaules, mit les pieds potelés dans d'épaisses chaussettes de laine et finit en lui revêtant la veste orange que lui avait tricotée Palmyre pour son 2e anniversaire. « Te voilà prête? On va aller voir ma tante Maddie. » Elle se hâta vers la porte en criant « Horace, je sors avec Béatrice quelques instants, à tantôt !»